Donc Jésus vient d'être crucifié. Verset 40, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur, et de Joseph, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui avait été très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Ces derniers mois, nous avons survolé ce récit de Marc. C'est la première biographie de Jésus où Marc a recueilli le témoignage de ceux qui l'ont connu, de ceux qui l'ont côtoyé. Et puis il a écrit Marc. On pense que c'est le premier des évangiles avant Matthieu, Luc et Jean. Et ici, c'est la fin de son récit. Et la résurrection est déjà une fin surprenante en soi. Une résurrection, c'est une fin surprenante à toute biographie, surtout à l'époque. On ne s'entendait pas à ça. Mais la fin de l'évangile de Marc est particulièrement surprenante. Puisque selon les meilleurs manuscrits, selon les plus anciens manuscrits, l'évangile de Marc s'arrête là, au verset 8. C'est pourquoi dans votre Bible, certainement, les versets qui suivent sont entre crochets, ou bien il y a une note en bas de page. Tous les traducteurs, tous les commentaires, tous les érudits estiment que la suite, à partir du verset 9, et il y a plusieurs variations, mais à partir du verset 9, beaucoup estiment que ce n'est pas de la plume de Marc, un épilogue probablement ajouté par un scribe bien intentionné, avec des choses glanées des autres évangiles. Les choses qu'on trouve dans les versets suivants se sont inspirées des autres évangiles, clairement. Donc, Marc arrête son récit au verset 8. Ceci dit, n'ayez pas peur de vos Bibles. Vos Bibles sont fiables, tout le texte est fiable. Il y a juste deux ou trois paragraphes dans tout le Nouveau Testament où les manuscrits, les meilleurs manuscrits n'ont pas certains textes, mais ça ne change rien au sens et au message. Mais ce matin, arrêtons-nous là où Marc s'arrête. Même si cette fin nous laisse sur notre fin, je vous relis le dernier verset. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. The end, comme disent les Français. Ne faut-il pas terminer sur une bonne note? N'est-ce pas la résurrection? Ces femmes qui sont saisies de peur et de trouble et qui ne disent rien à personne. Mais je suis de plus en plus convaincu que c'est exactement ce que Marc voulait faire pour terminer son récit. C'est sa manière de laisser trois petits points de suspension. C'est sa manière de créer un suspense pour nous à résoudre dans notre vie. crois qu'il y a quelques films comme ça. Je crois juste à la fin, il y a un twist ou un retournement final. Peut-être une scène juste avant le générique ou même après le générique qui laisse entendre peut-être une suite. Et puis on est étonné. Ou bien une scène qui nous donne envie de revisionner l'ensemble du film parce que du coup ça explique des choses, ça met toutes choses dans une autre lumière. C'est une telle scène, je pense que Marc veut nous laisser, avec ses femmes en train de courir, saisies d'effroi, des disciples effrayés et muettes. Regardez bien les sentiments et les émotions qui animent les femmes dans ce chapitre. Ce sont la crainte, la tristesse, le deuil, l'inquiétude, l'épouvante, la peur, la surprise, le trouble, le silence et l'effroi. Avec ça, on ne forme pas une nouvelle foi, une religion, une foi qui anime des milliers de personnes encore aujourd'hui. Et pourtant, c'est le cas. Et pourtant, elles sont les héros de ce récit, de ce passage, de ces quelques versets. Alors forcément, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Alors voyons de plus près ce matin ces premiers témoins de la résurrection, Marie, Marie et Salomé. Elles jouent un rôle clé dans la validation du récit. Ce sont des personnages très importants pour Marc et il les a mis pour nous interpeller aussi. Et nous allons voir ce matin que la présence et la réaction des femmes montrent que oui, la résurrection est vraie. Ensuite, oui, la résurrection est troublante. Et enfin, oui, la résurrection est merveilleusement rassurante. Voilà ce que nous allons voir grâce à ces femmes. Tout d'abord, la résurrection est vraie. C'est la raison pour laquelle Marc inclut la présence de ces femmes dans son récit pour insister sur le côté vrai et authentique de l'événement. En trois versets, il mentionne nom et prénom à plusieurs reprises. Vous avez verset 40 au chapitre 15, verset 47 et encore verset 1 au chapitre 16. Les femmes sont mentionnées de nom et prénom, pour ainsi dire. Lorsqu'on précise, par exemple, que c'est Marie, mère de Jacques, le mineur, donc ça précise vraiment, il y avait beaucoup de Marie à l'époque, mais on donne le nom et le prénom. La mention de ces prénoms, de ces noms, c'est un appel au premier lecteur d'aller vérifier, d'aller demander à elle-même si le récit est vrai. Parce que certainement, ces femmes sont toujours en vie à l'époque où Marc écrit. Et donc, on pouvait se renseigner auprès d'elle-même pour voir si ce que Marc disait était vrai. Dans les évangiles, notamment, quand on mentionne les noms et les prénoms avec des précisions, c'est une manière d'authentifier le récit. C'était un peu la même chose en chapitre 15 avec la crucifixion, avec ce Simon de Cyrène. On dit que c'est Simon de Cyrène et puis il est le père d'Alexandre et de Rufus. Ces personnes pouvaient être connues des chrétiens ou des gens, même à Rome, et ils pouvaient se renseigner. Donc si Marc inclut et insiste sur la présence de ces femmes, c'est pour rappeler que son récit est vrai. Et la présence de ces femmes est importante parce que d'après verset 40, elles étaient là, elles ont vu toute la crucifixion en verset 40, et elles regardaient de loin. Et puis en verset 47, elles ont vu donc la descente du corps, et elles ont même suivi jusqu'au sépulcre, et donc ils ont vu le tombeau dans lequel Jésus était mis. Ils ont vu quel tombeau, ils ont vu la pierre qui était mise sur le tombeau. Tout cela est important pour Marc parce que déjà ça répond à plusieurs objections, plusieurs doutes à son époque, comme quoi Jésus ne serait pas réellement mort ou qu'il y a eu un échange de corps, comme affirme l'islam par exemple, ou que les gens, les disciples, se sont trompés de tombeau. Ils ont trouvé un tombeau vide, mais finalement, ils se sont trompés de tombeau. Mais tout cela ne marche pas avec la présence de ces deux, voire trois, plus témoins, les femmes, qui ont bien vu dans quel tombeau, qui ont bien vu Jésus mort. D'ailleurs, les versets en chapitre 15 veulent montrer que Jésus était bel et bien mort, vraiment mort. Pilate a vérifié, le centenier romain a vérifié, Joseph d'Arimathée a vérifié, ces femmes ont ont constaté la chose. Donc Jésus était bel et bien mort et ces femmes ont vu le tombeau pour revenir au même tombeau le dimanche matin. En plus, ils sont deux à trois. On peut comprendre qu'une personne, une femme, se trompe de son chemin, peut-être. Mais à deux ou trois, elles s'encouragent, elles se motivent, elles trouvent ensemble le bon chemin. Alors, pour leur époque, c'était important la présence des femmes parce que des gens sur place, ces premiers chrétiens, les gens qui avaient des questions sur le christianisme, pouvaient se renseigner auprès de ces premiers témoins. Alors, c'est vrai que nous, on ne peut pas aller voir Marie ou aller voir Salomé pour valider le récit. Mais pour nous aussi, la présence de ces femmes à notre époque donne un côté authentique au récit qui est important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que l'histoire de Jésus, notamment l'histoire de la résurrection, c'est une belle histoire inventée par ces premiers chrétiens pour réchauffer le cœur ou pour gagner du pouvoir. Mais justement, la présence des femmes dans le récit pose problème à cette théorie que les hommes ont simplement inventé l'histoire. Si les hommes, Marc, Pierre, ces premiers hommes, voulaient inventer, si tout ça n'était pas vrai et qu'ils voulaient inventer une belle histoire de résurrection ou de Jésus, ils n'auraient jamais mis les femmes comme premiers témoins de la résurrection. C'était contre leur projet de vendre ou d'inventer une belle histoire. D'ailleurs, on peut comprendre si on fait le rapprochement à notre époque, ceux qui inventent des histoires de nos jours, ceux qui écrivent des scénarios de films par exemple, ils sont, eux, c'est le contraire, ils sont aujourd'hui obligés d'inclure la présence des femmes. Aujourd'hui, on veut voir une mixité, on veut voir que les héros soient aussi féminins, femmes. Ah, et encore récemment, je crois que c'était le prix de la bande dessinée à Angoulême. Il y avait un scandale parce qu'il n'y avait pas autant d'hommes et de femmes récompensés. Les Oscars, c'était encore le débat. J'avais vu un titre d'article de journal, Star Wars, le réveil de la femme, le réveil du féminisme, quelque chose comme ça, qui retraçait la différente manière que les mœurs évoluent et on va faire le casting différemment en fonction de la société et des valeurs. Et aujourd'hui, on veut célébrer une mixité. À l'époque, donc, à leur époque, on peut célébrer ce progrès, mais à leur époque, les choses n'étaient pas ainsi. Et d'inclure ces femmes dans l'histoire, c'était un argument contre la foi chrétienne. Même il y avait un argument qui circulait à l'époque. Non, il ne faut pas écouter ces chrétiens parce que c'est des histoires, c'est juste des histoires émotionnelles de femmes. C'était la mentalité à l'époque. C'est pas pour le défendre, mais c'était la mentalité de l'époque. Et si Marc voulait simplement plaire à son époque, vendre une histoire, tout comme ceux qui écrivent des histoires inventées, fictives aujourd'hui, doivent un peu se ranger ou plaire à ce que les gens veulent entendre et veulent voir. Si Marc voulait faire ça, s'il voulait écrire un best-seller de fiction, il n'aurait pas inclus ces femmes, il aurait raconté les choses autrement. L'explication, c'est plutôt que ces choses se sont réellement passées ainsi, que les femmes ont été vraiment témoins d'un tombeau vide. Et la meilleure explication, la seule explication historiquement tenable, qui ne soit pas farfelue, c'est qu'il y a vraiment eu la résurrection de Jésus-Christ. Donc la présence de ces femmes nous rappelle que la résurrection est vraie. Et c'est la première, il faut passer par là, être convaincu que la résurrection est vraie, historiquement vraie, que ça a vraiment eu lieu, et c'est le souci de Marc. Ensuite, nous allons voir que la résurrection est troublante. Si la résurrection ne nous trouble pas un peu, c'est qu'on l'a pas comprise. Et la réaction des femmes, c'est une réaction vraie, une réaction naturelle, normale à ce qu'ils viennent de voir. Le dernier mot de l'évangile de Marc, si le manuscrit s'arrête en verset 8, le dernier mot, à cause de leur effroi, ce mot est un mot que Marc aime bien, c'est un mot clé de l'évangile, on va le retrouver à plusieurs reprises tout au long de l'évangile. Et beaucoup de gens sont remplis d'effroi dans cet évangile, remplis d'effroi face à Jésus et ce qu'il est, ce qu'il a fait. Par exemple, vous avez une fois les disciples sont dans une barque lors d'une tempête. Vous connaissez peut-être l'histoire. Et ils sont effrayés par la tempête, par les vagues, par la mer. Et puis Jésus est là, il calme la tempête. Et quand le calme revient, Marc chapitre 4, verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur, même mot, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est-à-dire, ils sont plus effrayés après le calme en voyant Jésus avec eux dans la barque qu'avant, pendant la tempête. Même chose en chapitre 5, avec ce démoniaque. Il y avait un démoniaque qui faisait peur à tout le monde dans la région, et c'était un démoniaque déchaîné. Il créait beaucoup de problèmes. Et Jésus chasse le démon. Cet homme retrouve la paix, le bon sens. Et ceux qui constatent tout ça, Marc chapitre 5, verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Même expression, même mot. Donc, ils ont plus de frayeur en voyant cet homme calme, le démon chassé, qu'avant, parce qu'ils sont face à quelque chose qu'ils ne maîtrisent plus. Ils sont face à quelqu'un dont l'identité leur échappe. Ils sont face à Jésus. Comment expliquer Jésus? C'est qui ce Jésus? Et à plusieurs reprises, dans cet évangile de Marc, il y a ce côté d'une surprise totale, une crainte, une peur, un effroi face à Jésus, puisqu'il n'arrêtait pas de surprendre des gens. Les gens avaient souvent plus de peur de Jésus après qu'il a fait le miracle qu'avant. C'est-à-dire, il y avait une autre sorte de peur. Il y avait peur de la tempête. Mais qui est celui-ci qui fait faire cela? Et qu'est-ce que cela veut dire pour ma vie? Et c'est un peu ce que les femmes vont vivre ce matin de la résurrection. Elles viennent là avec des inquiétudes, avec des peurs concernant le poids de la pierre qui va nous rouler cette grande pierre. La situation est même pire qu'elle ne pensait, puisque depuis vendredi soir, le samedi, Pilate avait ajouté un sceau plus une garde romaine. Peut-être qu'elle n'était pas au courant de ça, donc elle s'inquiète simplement du poids de la pierre. Mais là, il y en a pire. Donc, elles sont venues avec des peurs et des craintes, on va dire, bassement matérielles. Elles repartent avec des craintes existentielles. Qu'est-ce que ça veut dire, une résurrection? Et on peut les comprendre, embaumer un corps sans s'y faire. Gérer un tombeau vide, ça nous dépasse. Embaumer un corps sans s'y faire. Gérer une résurrection, ça, c'est autre chose. Et ça montre que même les Juifs, même les disciples fidèles ne s'attendaient pas à ça. Vous voyez, si Jésus est ressuscité, la réalité est plus complexe et moins maîtrisable qu'on le pensait. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous si Jésus est réellement ressuscité? Si Jésus est réellement ressuscité, il n'est pas celui des médias ou dans beaucoup d'art. Si Jésus est ressuscité, il n'est pas celui des coloriages d'enfants qu'on peut mettre dans la poche. Vous savez, oui, pratiquer une religion, ça on sait faire, mais suivre un Seigneur, un Messie mort et ressuscité, ça nous dépasse. Si Jésus est ressuscité, ça veut dire que la science rationnelle n'a pas le dernier mot. Et pour beaucoup, ça peut être troublant de dire que la science n'explique pas, ne gère pas tout. Si Jésus est ressuscité, je dois lui obéir, je dois le suivre. Pour d'autres, c'est ça qui est troublant. Si Jésus est ressuscité, c'est qu'il y a une vie après la mort. Quelle est-elle? Quelle sera-t-elle? Toutes ces questions peuvent se poser et peuvent nous être troublants. Si Jésus est ressuscité, la foi chrétienne bat toute concurrence religieuse et philosophique. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, j'aime bien rappeler ce que dit Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, un philosophe français. Lui, il a compris ça. Il dit, pourvu qu'on ait la foi, Le christianisme est sans concurrent. Au banc d'essai des doctrines de salut, nul ne fera jamais mieux que lui. Et il dit ça à cause de la résurrection. À cause de la résurrection, à cause de la victoire sur la mort, à cause d'une vie éternelle, à cause d'un nouveau corps. La résurrection, la foi chrétienne bat toute concurrence religieuse et philosophique, puisque la résurrection, le message d'une résurrection est unique à la foi chrétienne et ne se trouve pas dans d'autres religions, d'autres philosophies. Une vie après la mort, oui, mais une résurrection comme Jésus l'a vécu et qui nous l'offre, ça, c'est que la foi chrétienne. Donc si la résurrection est vraie, la foi chrétienne bat toute concurrence. Et ça peut être troublant pour certains. Donc, je pense qu'en nous laissant avec ce verset 8, avec cette réaction surprise des femmes, que nous savons être provisoire, c'est sûr. Mais Marc, je pense que Marc veut nous secouer un peu. La réaction des femmes est bien plus cohérente et logique face à ce tombeau vide que ce que beaucoup vivent aujourd'hui. On se lève le matin, dimanche matin, on prend le café, on lit le journal, on mange quelques œufs au chocolat. Et puis, on passe un bon après-midi, on se couche. Et pour Marc, une telle réaction ne convient pas si le tombeau est vide. Si le tombeau est vide, c'est comme ces femmes ont vu, eh bien, leur réaction est au moins cohérente et logique. Leur schéma de vie, le schéma de réalité est bouleversé. Une résurrection 3 jours après la mort, on vient de voir le mort, maintenant il n'est plus là. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Non seulement qui calme le vent et la tempête, mais qui est celui-ci qui rompt les liens de la mort? Et qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ça peut être troublant. Mais j'aimerais terminer en disant que la résurrection est merveilleusement rassurante. Les femmes n'ont pas l'air très rassurées ici, dans le verset 8, en courant comme ça. Et cette dernière scène que Marc nous laisse, c'est ces femmes remplies de peur et d'effroi. Elles n'ont pas l'air très rassurées, mais le message qu'ils ont reçu et le message qu'ils sont censés transmettre et véhiculer, ce message est très rassurant si vous regardez ce que a dit l'ange. L'ange leur dit « Ne vous épouvantez pas ». Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. L'ange constate la vérité de la résurrection, mais il y a quelques mots, quelques phrases ici qui se veulent très rassurants pour les disciples. Notamment quand il dit, donc déjà il rassure les femmes, ne vous épouvantez pas. Et puis verset 7, le message qu'ils ont apporté, allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précèdent en Galilée. Pourquoi et à Pierre aussi? C'est parce que Pierre, il vient de renier le Seigneur. Mais ça veut dire que le message que Christ ressuscité, Christ le veut toujours comme ami, comme disciple. Ça veut dire que le message, la résurrection, c'est pour lui. Il est concerné, il est aimé, il est inclus, il est pardonné. Jésus avait commencé son ministère en Galilée, c'est là qu'il avait rassemblé cette communauté de disciples. Et puis c'est là, maintenant, il donne rendez-vous, le point de rassemblement, pour rappeler, voilà, on est toujours dans le même projet de vous rassembler, de former une communauté que j'aime, que je vais envoyer, dont je vais prendre soin et que je pardonne constamment. Voilà le message rassurant. Qu'est la résurrection pour nous? Ça veut dire que pour nous aussi, des échecs, des péchés dans le passé. Le matin de la résurrection, Jésus n'est pas dans l'action de gronder les gens. Il est dans l'action de nous dire, de nous rassurer. Je vous précède. Je vous précède dans tout, je vous précède dans la vie, je vous précède dans la mort. C'est-à-dire, je vous devance le châtiment, la punition, ça, je vous ai devancé, pas besoin de vous inquiéter. La victoire de la vie, je vous devance et je vous l'offre Voilà le message de la résurrection. Et quand on regarde finalement tout l'évangile de Marc, ceux à qui Jésus a dit ce message, ceux qui ont compris ce message, c'était toujours les personnes surprises. Toujours des réponses surprenantes. Déjà ici, l'accent est mis sur les femmes, qui à l'époque, ce ne sera pas elles à être les premiers témoins de la résurrection, et pourtant Dieu leur accorde un rôle énorme, un rôle glorieux. Pierre, celui qui avait tout renié, celui qui va être un grand apôtre, ça aussi c'est le message rassurant de la résurrection. En chapitre 15, entre les femmes qui sont à la croix, qui voient la crucifixion, et entre les femmes qui assistent à l'enterrement au tombeau, on fait connaissance avec un autre homme, lui aussi un disciple surprise finalement, c'est Joseph d'Arimathée. On sait d'ailleurs qu'il se cachait, il cachait sa foi, il ne voulait pas s'afficher, il ne voulait pas se montrer, mais ici, un membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était un lieu d'opposition contre Christ. C'est ceux qui ont voté contre Christ. Mais lui, le verset dit qu'il ose se rendre vers Pilate et demander le corps. Donc, Joseph d'Arimathée, une personne surprenante qui va lui suivre Jésus. Et partout dans l'Évangile, c'est ce qu'on voit. Le centenier romain, c'est le premier qui a voir cette profession de foi que Marc veut nous inculquer, nous donner, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça, venant de la part d'un Romain, même avant les Juifs, ça, c'est étonnant. Pendant, on a vu ça avec Simon de Cyrène. Cyrène, c'était l'Afrique noire à l'époque. Donc voilà, un homme, il va être le premier, littéralement, à... Jésus avait dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prend sa croix, qu'il me suive. Simon de Cyrène, il va faire ça littéralement. Peut-être ce jour-là, ne pas tout comprendre, mais on pense que lui et sa famille se sont impliqués dans l'Église. Donc, le premier homme a vraiment modélé, en tout cas, ce que c'est de renoncer à soi-même et de prendre la croix et de suivre Jésus-Christ. Voilà, Simon de Cyrène. Donc, vous voyez, la résurrection touche des personnes surprenantes et les inclut dans la communauté, les rassemble. Ce que Jésus a fait pour Pierre, ce que Jésus a fait pour ses femmes, ce que Jésus a fait pour le centenier romain, ce que Jésus a fait pour Joseph d'Arimathée, ce que Jésus a fait pour Simon de Cyrène, pour Rufus, pour Alexandre, et ce que Jésus, vivant encore aujourd'hui, n'arrête pas de faire, de surprendre le monde en touchant les personnes surprises en touchant des Français modernes avec le message de la résurrection, en voulant les inclure dans sa famille, dans son Église, à les dire à mes disciples, à les dire à ces gens-là, même qui ne se croient pas proches, qui ne se croient pas méritants, qui ne se croient pas en première ligne, à les dire ceux-là que je les attends, que je les devance, que je les veux. Voici en quoi la résurrection est si rassurante dans la manière qu'elle nous est présentée. Cet évangile termine avec une dernière ironie, je trouve. Souvent, jusque-là, dans l'évangile de Marc, avant sa mort, Jésus a fait un miracle et puis il a dit aux gens, ne dites rien, ne dites rien. Pourquoi il faisait ça? C'était pour ne pas donner des fausses attentes messianiques en Israël. Les gens, si... En voyant Jésus guérir, Jésus ne voulait pas qu'il pense qu'un Messie, c'est simplement un guérisseur. Et donc, il disait aux gens qui bénéficiaient de ces miracles, il disait, ne dites rien à personne. Et systématiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à tout le monde. Ici, après que Jésus soit mort et ressuscité, après qu'il a montré vraiment sa mission de Messie, qui n'était pas simplement de guérir nos maladies, mais vraiment de guérir notre cœur et notre problème avec la mort, quand cela est fait, là, le message va dire à tout le monde, dites à tout le monde. Et donc, le message pour les femmes, c'est aller dire. Qu'est-ce qu'elles font? En tout cas, verset 8, elles ne disent rien à personne. Quand Jésus dit aux gens, ne dites rien, ils disent tout. Quand ils disent dites, ils disent rien. qu'est-ce qu'on va faire avec nous les hommes? Eh bien, le message rassurant, c'est que la réussite de sa mission ne dépend pas des gens, de nous, Jésus. Il nous transforme pour que sa mission s'accomplisse, et ça, c'est rassurant. Est-ce que les femmes sont restées muettes et effrayées? Alors, nous, on peut tricher un peu parce qu'on connaît Matthieu, Luc et Jean qui racontent que juste dans la suite, elles vont voir Jésus ressuscité, ce que Marc nous rapporte pas. Mais même pour les premiers lecteurs à Rome, qui n'avaient pas encore Matthieu, Luc ou Jean, même ces premiers lecteurs, en fait, ils savent la suite. Ils savent la suite parce qu'ils savent que Marc a recueilli le témoignage de Pierre, notamment. Et si Pierre était devenu cet apôtre qu'il était dans le livre des Actes, s'il est arrivé jusqu'à Rome, comme beaucoup pensent, eh bien, visiblement, c'est qu'il a été restauré. Visiblement, c'est qu'il a reçu le message venant des femmes, allez dire à mes disciples et à Pierre que je vous attende, que je vous devance. Et donc, oui, on le sait que pour ces femmes, leur peur et leur silence a été remplacé par une assurance, un courage, comme tous les disciples ont pu expérimenter. Vous connaissez le jeu de la patate chaude? Je termine avec ça. Les enfants jouent ça, on prend un objet, on imagine que c'est une patate chaude, et donc la musique, pendant que la musique joue, il faut passer vite la patate chaude pour ne pas se brûler les mains. Puis la musique s'arrête brusquement, et c'est celui qui se trouve avec la patate chaude. Dans le jeu, c'est lui qui est perdant, je crois. Mais ici, je pense que Marc joue ce jeu avec nous. Le récit de Marc s'arrête brusquement, comme la musique qui s'arrête. Et c'est qui avec la patate chaude? Je vais vous dire, ce ne sont pas les femmes. Eux, ils ont passé le truc. Ce n'est pas Marc, lui. Il a envoyé son récit. C'est qui reste avec la patate? Eh bien, c'est nous. C'est nous, sauf que nous ne sommes pas des perdants, nous sommes des gagnants. Mais la question pour nous, c'est qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Quelle suite allons-nous donner? Le mutisme, l'effroi? Quelle conclusion allons-nous donner à tout ce que nous avons vu dans ce livre? Qu'est-ce que nous allons faire avec celui qui a fait tant de choses, qui a dit tant de choses, mais ce matin surtout qui est ressuscité? Qu'est-ce que nous allons faire avec lui? Et qui est ce Jésus? Oui, c'est comme une patate chaude qui tombe sur nous. Et pas juste tranquillement le mettre dans sa poche. Et il faut faire quelque chose avec. Il faut réagir, il faut le partager avec d'autres. Voilà ce que Marc veut nous laisser.